Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal Pascal Massiri Kabissimo.
Les titres de l'actualité, la fièvre typhoïde a coûté la vie à 24 personnes sur 700 cas documentés en 5 mois dans la province du Kwango. À la base, le manque d'eau potable dans la région. Les députés provinciaux du Nord Kivu recommandent au président Félix Tshisekedi de privilégier la solution politique pour mettre fin au conflit armé à l'est du pays. Il plaide également pour la création d'un climat d'apaisement et de sécurisation mutuelle entre les États de la sous-région. Notre invité, c'est le directeur de la DGDA au Nord Kivu, Djongo Belinga, qui revient d'une mission de 2 jours à Beni, affirme que la guerre a coûté beaucoup de difficultés. Madame, Messieurs, bonsoir. Santé pour commencer votre journal. Dans le Kwango, la fièvre typhoïde a coûté la vie à 24 personnes sur 700 cas documentés en moins de 5 mois dans la zone des santé de Panzi, dans les territoires de Kasongolunda. Le médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination, Dr Léon Makambu, affirme que cette maladie fait suite au manque d'eau potable. À Bandounouville, Irène Moma.
Au total, 771 cas de fièvre typhoïde ont été recensés dans la zone de santé de Panzi située au territoire de Kasongolunda dans la province du Kwango au cours de la période allant du mois d'octobre 2022 jusqu'à la 7e semaine épidémiologique de l'année en cours, soit au mois de février. Parmi ces cas, au moins 24 personnes sont mortes, dont un enfant de moins de 3 ans décédé en post-opératoire. Dr Léon Makambu, médecin coordonnateur du programme élargi de vaccination du Kwango, attribue cette flambée des cas de fièvre typhoïde à la consommation de l'eau non potable par la population de cette zone de santé.
Lorsque la population n'a pas une source d'eau potable, la population est vouée à développer la maladie à main sale ou la maladie hydrique, notamment la fièvre typhoïde. Bref, Panzi n'a pas de source d'eau potable. Nous demandons aux autorités du pays de penser à disponibiliser pour la population de Panzi des sources d'eau potable qui peuvent aider à la communauté de consommer l'eau traitée.
Il faut signaler que la fièvre typhoïde se manifeste notamment par la forte fièvre, la colique abdominale, la diarrhée ou la constipation et autres, pouvant se compliquer par la perforation intestinale. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, des voix s'élèvent au Nord Kivu pour recommander de privilégier la solution politique pour mettre fin au conflit armé à l'est de la RDC. La dernière en date, c'est celle des députés provinciaux qui, dans une lettre ouverte adressée au président Félix Tshisekedi, estime que le moment est venu de privilégier cette voie pacifique afin d'éviter à la province de nouveaux morts qui se comptent déjà par centaines. Ils recommandent aussi la création d'un climat d'apaisement et de sécurisation mutuelle entre les États de la sous-région. Des précisions avec le président de l'Assemblée provinciale, les propos de Robert Seninga ont été recueillis par Julien Galomona.
Recommandons ce qui suit. 1. La cessation immédiate des hostilités. 3. Privilégier les résolutions pacifiques à la crise de l'Est afin d'éviter d'enregistrer d'autres morts qui se comptent déjà par centaines parmi les populations civiles. 5. L'ouverture des couloirs humanitaires et des voies routières bloquées dans toutes les zones affectées par le conflit armé, notamment les axes Goma-Ruchuru-Kanyabayonga, Goma-Kichanga, Goma-Masisi-Walikale. 7. Créer un climat d'apaisement et de sécurisation mutuelle entre les États de la région en veillant à l'acte de non-agression. 8. Renforcer la brigade FIB avec mandat offensif. Fête à Goma le 28 février 2023.
Nord Kivu encore et en plus bref, des combats ont repris ce matin entre les FARDC et les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandaise à Karuba et à Misekera après la localité de Mushaki dans les territoires de Masisi. Des sources locales affirment à Radio Kapi que les FARDC et les forces d'autodéfense locales ont réussi à repousser hier l'ennemi au-delà des Kimoka, une localité située à une dizaine de kilomètres de la cité de Sake. Le porte-parole des FARDC dans la région confirme le contrôle totale de la cité minière de Rubaya par les FARDC. Cependant, une accalmie relative est signalée aujourd'hui dans la cité de Mouesso, occupée voici 48 heures par ces rebelles. Dans la Tchopo, les organisations de la société civile et celles de la défense des droits de l'homme s'insurgent contre la présence des troupes kenyanes à Kisangani. Elles les assimilent aux forces de l'EAC, censées pourtant imposer la paix à l'est du pays. En réaction à cette préoccupation, le commandant de la 31e région militaire, le général de brigade Timothée Mujinga, assure que ces troupes kenyanes ne sont pas à confondre avec celles de l'EAC. Reportage à Kisangani de Jacques Mkonkole.
Ces éléments de la force de défense kenyane se trouvent à Kisangani depuis environ 3 semaines. La population les assimile aux forces de l'EAC et se demande sur l'objet de leur présence à Kisangani. Pierre Kibaka, porte-parole des organisations de la société civile et celle des droits de l'homme.
Pendant que tout le peuple congolais est mobilisé, tu vois le mot d'ordre du chef de l'État comme un seul homme pour bouter dehors tous ces ennemis de la patrie, nous ne pouvons pas comprendre voir des éléments de l'EAC atterrir à Kisangani à plus de 2000 kilomètres là où ils sont censés être, que la population de Kisangani ne voudrait pas de cette troupe.
Pour en avoir le cœur net, le président de l'Assemblée provinciale a invité hier le commandant de la 31e région militaire dans son office. Le général de brigade Timothée Mujinga affirme que les troupes kenyanes séjournent à Kisangani dans le cadre du partenariat entre les deux armées.
Je suis venu apporter certaines précisions à l'honorable président pour que la population comprenne que le contingent qui est ici à Kisangani, les différentes forces de l'EAC. Il s'agit pratiquement d'un partenariat entre deux armées qui n'a rien à voir avec ce qui se passe sur les théâtres des opérations.
Par ailleurs, le commandant régent félicite la population pour sa vigilance et l'exhorte à avoir toujours confiance en son armée qui n'a d'autre souci que de lui donner la paix. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Au sud Kivu, des présumés miliciens Tuguaneo-Gumino ont fait incursion cette nuit dans les camps des déplacés de Bidjombo dans les hauts plateaux d'Uvira. Le chef du groupement de Bidjombo, Tete Amissi, affirme que près de 25 vaches appartenant aux déplacés ont été emportées par ces assaillants. À Uvira, la correspondance de Fiston Gomamayabala.
Les assaillants n'ont tiré aucun coup de feu pendant l'incursion dans ces camps situés non loin d'une position de FRDC. D'après le chef des groupements de Bidjombo Tete Amissi, les vaches volées ont été conduites vers Muramvya. Une autre source concordante souligne que 50 vaches ont été volées et dirigées vers le village de Kagogo. Le président de la société civile de Bidjombo, Chima Kakozi, ainsi que le président de la mutualité Fouliru de Bidjombo, Bernard Rukubita Kijanda, affirment qu'aucune activité champêtre n'a été réalisée ce mercredi. Les déplacés internes craignent que ces cas de vol de vaches soient à la base de la reprise des hostilités et des conflits après le retrait de la MONUSCO dans cette partie des hauts plateaux d'Uvira. À Mikenge, dans les secteurs des tombes voisins en territoire de Mwenga, les troupes de FRDC sont intervenues lundi dernier pour repousser une tentative de vol de vaches des déplacés internes Banyamulenge près de la base de la MONUSCO. Des miliciens Maïmaï du groupe Kibukila avaient campé près de ces sites des déplacés avec l'intention de voler des vaches qui se nourrissaient à proximité. Leur présence a semé la panique. Les FRDC les ont pourchassés vers la vallée de Kassirou à 2 km du site. Des sources militaires sur place ne fournissent aucun bilan des échanges des tirs avec le milicien. D'Uvira, Fiston Mamayabal, Radio Okapi.
Il y a une franche collaboration entre les Nations Unies et l'Ituri contre la désinformation et les manipulations qui conduisent à des morts d'hommes parmi la population locale et des casques bleus. Déclaration faite ce mercredi à Bunia par la chef de la MONUSCO. C'était à l'issue d'une séance de travail avec le comité provincial de sécurité. Madame Bintou Keïta a déploré cependant la reprise des violences malgré la signature de l'acte d'engagement par les groupes armés et leur participation aux consultations de Nairobi 3. Il s'est confié à Martial Kizabiamungu.
Très clairement, il y a une franche collaboration que nous pouvons constater puisque régulièrement à partir de Kinshasa, je peux voir les positions qui sont prises par le gouverneur pour lutter contre la désinformation, les manipulations qui de nouveau conduisent à des morts de membres de la population, de morts de côté des casques bleus. Les dialogues intracommunautaires avaient donné des résultats avant Nairobi 3, notamment avec les engagements mouvement de Codeco et d'autres groupes. Malheureusement, après Nairobi 3, ce que nous constatons, c'est une recrudescence de la violence avec des attaques et des représailles entre Codeco et Zaïre, MAPI. Et donc, on espère que malgré tout, que ces groupes se reprennent et qu'ils comprennent qu'ils doivent arrêter les exactions qu'ils commettent contre les populations parce que les populations sont fatiguées.
Justice à présent à Lubumbashi, Justicia Asbel, une ONG de défense des droits de l'homme, salue le récent discours prononcé à Genève en Suisse par le président Félix Tshisekedi Tshilombo et soutient en même temps le gouvernement congolais sur certains aspects. Cependant, au sujet des prisonniers politiques et d'opinion, contrairement à ce qu'a affirmé le chef de l'État, le responsable de cette ONG estime qu'il y en a encore dans les prisons congolaises. Timothée Mbuya le dit à Jean Ganduka Bongo.
Justice salue l'allocution tenue par le chef de l'État à la 52e session de la Commission des droits de l'homme à Genève. Dans son allocution, le chef a épinglé quelques points positifs, notamment le retour des exilés politiques, la décrispation politique. Justicia soutient également la position du gouvernement contre la guerre d'agression dont notre pays est victime, mais aussi soutient la demande en vue de la mise en place d'un tribunal spécial international pour la République démocratique du Congo qui connaîtrait des crimes qui ont été commis à l'Est et qui sont répertoriés par les rapports mapping ou même des crimes ultérieurs. De l'affirmation selon laquelle il n'existerait plus des prisonniers d'opinion ou des prisonniers politiques. Justicia va épingler quelques cas emblématiques aujourd'hui, notamment le cas de Momo Mulapu, le cas de Jimmy Kitenge, de Jean-Marc Kabound. Justicia regrette également la poursuite de la guerre dont notre pays est victime, mais ne soutiendrait pas que cette guerre soit un prétexte pour ne pas tenir les élections en décembre.
L'actualité, c'est aussi la fin hier soir à Kinshasa de la 54e session du Conseil des ministres de l'OADA. En sa qualité de présidente du dit conseil, la ministre congolaise de la Justice parlait de quelques résolutions prises au cours des deux jours de travaux. Il s'agit notamment de la création envisagée d'une antenne du centre d'arbitrage de la Cour commune de justice en RDC. La session de Kinshasa a également décidé d'actionner les mécanismes de recrutement au sein de l'organisation et d'arrêter de détourner certains meilleurs cadres par des pays voisins. Madame Rose Mutombo est au micro de Jeff Ngoy.
Outre l'instauration d'une gouvernance irréprochable, la réforme de l'arbitrage CCJA, déjà amorcée, me paraît urgente. La création envisagée d'une antenne du centre d'arbitrage de la CCJA en RDC rentre également dans ces registres. J'avais cerné au nombre des problèmes qui plombent le fonctionnement optimal de notre organisation, la question des vacances des postes et des nombreux intérims. Au cours de cette session, nous avons pris une sage décision sur la question en actionnant deux leviers de recrutement, à savoir de désigner un cabinet international chargé de pourvoir aux postes d'encadrement vacants et d'instruire les différents responsables des institutions de conduire le processus de recrutement aux postes pour lesquels la nomination relève de leurs compétences.
On en vient maintenant au programme de développement de 145 territoires. Le Bureau central de coordination a déployé récemment des missions de contrôle sur terrain et cela pour évaluer le niveau d'exécution des travaux exécutés par les agences locales et les PME. En mission à Kananga, le directeur général du BCECO parle de l'instauration d'un suivi régulier et rigoureux. Jean Mabi l'a dit à François Kadima.
La confiance n'exclut pas le contrôle. Ils ont mis en place un mécanisme pour le suivi des travaux. Si vous avez bonne mémoire, par le passé, la plupart des travaux sont restés inachevés parce qu'il n'y avait pas un suivi régulier. Mais ici, nous avons mis un système de suivi à tous les niveaux, au niveau national, mais également au niveau provincial, mais aussi au niveau du projet. Donc vous verrez que de temps en temps, il y aura des missions conjointes, BCECO et gouvernement. Dans le cadre justement du contrôle citoyen, nous avons déployé dans tout le territoire des journalistes et les membres de la société civile. Si on le fait, c'est pas parce qu'il y a un sentiment de malaise, non. Mais ce que j'ai constaté de positif, c'est qu'on ne pouvait pas imaginer, dans tous les chantiers, dans les territoires, quand vous arrivez, vous voyez les systèmes de construction, les sites de construction de nos villages. Alors vous voyez des gros bâtiments qui s'élèvent, c'est impressionnant.
Notez que pour le programme de développement des 145 territoires, le BCECO, par voie de passation du marché, a recruté récemment des agences locales d'exécution et les petites et moyennes entreprises PME.
Actualité internationale.
Bola Tinubu, le candidat de l'APC, le parti au pouvoir au Nigeria, va succéder désormais à Muhammadu Buhari en tant que président de la République. Après 4 jours de décompte au Nigeria, il a obtenu ce mercredi le plus grand nombre de voix à la présidentielle. Sa victoire a été confirmée aujourd'hui par la Commission électorale nationale. Alors que le président français entame sa tournée en Afrique centrale par le Gabon ce mercredi, les habitants de Libreville remettent en question cette visite officielle dans la capitale gabonaise. Le déplacement d'Emmanuel Macron, le 18e depuis son premier quinquennat en 2017, est considéré à Libreville comme malvenu. Et puis le sommet des ministres des Affaires étrangères du G20 se tient demain jeudi à New Delhi. Au menu de la rencontre, la guerre en Ukraine et ses répercussions sur l'économie mondiale. Pour la première fois depuis plusieurs années, en effet, les ministres américains et russes doivent se retrouver alors que l'Inde, qui préside cette année ce groupe de 20, les plus grandes économies mondiales, va essayer de jouer l'intermédiaire avec une position neutre dans ce conflit.
L'invité.
Notre invité, c'est le directeur provincial de la DGDA au Nord Kivu, Djongo Belinga, qui revient d'une mission de 2 jours à Beni, affirme que la guerre de rebelles du M23 appuyée par l'armée rwandaise affecte le fonctionnement normal de la douane dans cette province. Il s'entretient avec Martial Papimukeba.
Djongo Belinga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Qu'est-ce qui a justifié votre présence dans la région de Beni?
Ma présence fait suite aux objectifs budgétaires que la direction générale nous a confiés pour cette année-ci. Nous avons signé un contrat programme à la direction générale pour les assignations budgétaires. De la même façon, au niveau provincial, nous avons signé aussi des contrats programmes avec les différents chefs de bureau. Mais il ne suffit pas seulement de signer des contrats programmes, il suffit aussi d'analyser la situation pour imaginer des stratégies en vue de la mobilisation maximale des recettes. Et parmi les éléments que nous avons retenus, il y avait le renforcement de capacités des agents, non seulement en matière de procédures douanières, mais aussi en matière de contentieux douaniers, pour leur permettre de récupérer ce qu'on appelle les recettes qui pourraient échapper au moment du dédouanement. Voilà pourquoi nous avons fait le voyage pour exécuter cette recommandation et permettre au finish aux agents de pouvoir prêter serment devant l'officier du ministère public. Ainsi, ils auront la qualité d'officier de police judiciaire à compétence restreinte pour signer les procès-verbaux d'infraction en matière douanière.
Parlons du fonctionnement de la douane au Nord Kivu. Près d'une année après votre arrivée à la tête de la DGDA au Nord Kivu, comment décrivez-vous la situation de la douane dans la province?
Je ne peux pas tellement faire un bilan sur la situation de la douane, d'autant plus que cette douane ne fonctionne pas en électron libre par rapport à la situation générale de la province. Vous connaissez ce qui se passe dans la province et tout cela a aussi un impact sur le fonctionnement de la douane.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que nous souffrons aussi de cette situation d'insécurité.
Est-ce que la guerre du M23 a un impact sur le fonctionnement de la douane au Nord Kivu? Si oui, lesquels?
L'impact, c'est qu'il y a certaines marchandises qui ne peuvent plus entrer par les voies que nous gérions à l'époque. Nous avons aujourd'hui 2 bureaux qui ne fonctionnent plus, le bureau de Bunagana et le bureau d'Ishasha. C'est déjà les impacts visibles de cette situation.
En termes de chiffres, à combien estimez-vous les pertes des recettes douanières chaque mois depuis l'occupation des frontières de Bunagana et Kitagoma par les M23 et l'isolement même de la douane d'Ishasha?
Je n'ai pas fait une étude pour vous donner un pourcentage réel de l'impact de ces occupations. Il faut vraiment se mettre sur la table, prendre les tonnages avant la situation et les tonnages que nous gérons à ce moment-ci pour que je puisse vous répondre scientifiquement.
Avec cette situation, est-ce que vous arrivez à atteindre vos assignations?
Nous sommes toujours en train de nous battre, mais je crois que ce mois-ci, nous avons fait quand même beaucoup d'efforts. J'ai vu, par exemple, les bureaux de Beni ici, le bureau de Butembo, ils sont de là. Ils sont déjà au niveau de presque les 100%. Et j'ose croire que pour Gomaville ainsi que les autres, on pourra faire la même chose. Donc si on n'atteint pas 100% des assignations, on pourrait avoisiner les 90 par rapport aux efforts que nous faisons malgré cette situation.
Le Nord Kivu est une province qui fait face à la fraude douanière et à la contrebande, surtout des minerais. Au niveau de la DGDA, qu'est-ce que vous faites exactement pour lutter contre cette pratique?
Les efforts sont les mêmes, que ce soit pour les minerais que pour les autres marchandises. Les efforts doivent être les mêmes. Mais vous comprenez bien que cette situation dont nous avons parlé dernièrement impacte sur les efforts que nous menons pour les dédouanements de toutes les marchandises, que ce soit à l'importation ou à l'exportation.
Mais quand vous étiez arrivé, vous avez annoncé des réformes pour lutter contre cette situation. Et aujourd'hui, si on vous demande de dire ce qui est déjà fait et ce que ça a apporté par rapport à la maximisation des recettes au compte du trésor public, qu'allez-vous dire?
Les programmes, on les exécute, on dit toujours « toute chose restant égale par ailleurs ». Or, la situation aujourd'hui n'est plus celle que j'ai trouvée quand je suis arrivé dans la province.
Bilinga Djongo, merci.
Merci à vous.
C'était l'invité de Radio Okapi, le directeur de la DGDA au Nord Kivu, Djongo Bilinga, était interviewé par Martial Papimukeba. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir écouté.